Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Dernier florilège et lundi on revient.
C'est sûr.
Non, je discute pas.
Non, mais parce que c'est quand même bien les florilèges. Oui. Moi j'aime bien, on réécoute des moments super, on se rappelle l'actu d'il y a quelques temps.
Oui, et puis on en scoop pas une sur un transat aux Bahamas.
Voilà. Ça, donc lundi on revient.
Voilà. Enfin, on n'est pas encore lundi.
Oui, et d'ailleurs, c'est qui aujourd'hui le couple là?
Attention, c'est le couple le plus glamour de la semaine.
Ah, cool.
Un beau moustachu ténébreux.
Ok.
Et une actrice que vous aimeriez avoir dans vos filets. Hein.
Alors attends, parce qu'un moustachu ténébreux, il n'y en a pas beaucoup.
Les actrices que j'aimerais avoir dans mes filets, il y en a beaucoup.
C'est Henri Dess et Alix Poisson.
Ah ouais. Ça c'est le donc ça c'est pour toi c'est le couple glamour ça.
Bah tellement mais évidemment.
Henri Dess, mais je l'adore, c'est pas la question. Comme babysitter, il est parfait, mais c'est pas non plus le Georges Clooney du Léman.
Mais vous n'y comprenez rien les garçons. Et les filles, nous on aime les rockers,
voilà. Oui, mais enfin le Henri Dess.
Oui, bah je te rappelle qu'il est venu pour nous présenter le disque de ses chansons en version rock là, tu vois. Un petit peu l'album de Henri Dess Metal.
Oui, bon bah ouais, bah alors on peut rien faire.
Oui. J'ai compris. Dans les filets, poisson. Excellent. C'est un jeu de mots. Vous avez fait un jeu de mots.
Il est temps qu'on reprenne. Hein. Bonjour la France Inter. Nous sommes le vendredi 2 novembre 2018, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Bonne fête à Vladimir Poutine. Nous allons accueillir Henri Dess. Alors outre le fait que nous ayons chanté avec lui Le camion qui fait prout, fin de citation, nous avons discuté de l'usage de la paille en plastique, celle qui finit dans l'estomac des gentils dauphins. Et aussi on a parlé du camembert pasteurisé qui finit dans l'estomac également, mais là c'est normal. Et puis vous entendrez la comédienne Alix Poisson. On a discuté avec elle de ce projet du ministère de l'Éducation, apprendre la Marseillaise à tous les élèves. On a aussi abordé cette terrible pression sociale qui nous oblige à participer aux enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles. Et avec Alix Poisson, bah il y a sketch, forcément. Les Macron au Vatican. Alors Alex, qui sont les chroniqueurs frais du jour?
Alors qu'est-ce que j'ai de beau dans mon panier? J'ai du Mélanie Bauer qui nous parlera évidemment de l'album et de la carrière d'Henri Dess. Je pense que dans sa vie, elle n'avait pas pensé faire ça un jour.
Oui, mais il fait des reprises un peu punk.
Ah oui, bien sûr, des reprises un peu punk. Christine Gonzalez viendra nous commenter The Voice Made in l'au-delà. Et puis vous connaissiez Sur les épaules de Darwin, vous découvrirez Sur les épaules d'Hippolyte. Hippolyte Girardot s'est lancé dans cette chronique. Et on terminera par Frédéric Fromet qui lui chantera la situation dans les EHPAD.
Allez, avec Henri Dess, en avant dans le camion qui fait prout. C'est parti.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est le vrai Henri Dess?
Ah oui.
Gabriel.
Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, tu veux pas une boule vanille? Camille, non, je ne veux pas de vanille. Tu sais, j'aime pas la vanille, je préfère de la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Lucas, tu veux pas une boule mocha? Lucas, tu veux pas une boule mocha? Lucas, non, je ne veux pas de mocha. Tu sais, j'aime pas le mocha, je préfère de la glace au citron. Aussi gelée qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout, tout. Françoise, tu veux pas une boule Françoise? Framboise, tu veux pas une boule Françoise? Framboise, non, je ne veux pas de framboise. Tu sais, j'aime pas la framboise, je préfère la glace au citron. Aussi jolie qu'un glaçon qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout.
C'est le vrai.
Oui, c'est le vrai. C'est le vrai.
Standing.
Mais attendez, Henri Dess, version rock, c'est ça?
Fallait l'arrêter parce qu'il avait encore évidemment 174 prénoms avec des parfums de boules de glace.
C'est le nouveau Henri Dess qui est avec nous, le rocker.
Ouais, bah c'est une petite plaisanterie qu'on a fait avec mon fils.
C'est ça, génial, c'est-à-dire que quand on voit l'album, qu'on l'a en main, Henri Dess and The Grand Gamin, il y a sur la pochette un autocollant où il y a marqué « version rock ».
Bah il faut,
Ah bah bien sûr, c'est-à-dire qu'on vous attendait pas là. En 2016, vous faites un concert et sans doute ça part, vous allez me le dire, d'un délire peut-être. Et vous dites, je vais faire une soirée rock, j'arrête les Olympiades, je fais la maroquinerie.
Ah oui, c'est ça.
Et je suis un jeune talent qui débute sur la scène rock. C'est comme ça que ça a commencé.
Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout un truc que j'avais dans la tête de faire un truc rock. C'est simplement parce que quelqu'un voulait faire un tribute avec moi dans un petit club de rock à Bulle. Et mon fils m'a dit, tu veux faire ça? J'en sais rien, donc si tu crois. Puis il m'a dit, brouf, à ton âge, tu risques plus grand-chose, tu vas pas te faire mal voir à faire ça. Et puis le club a engagé 10 groupes qui ont chanté chacun trois chansons à moi, à leur façon, en reggae, en pop, en trash, en speed metal, machin. Et puis moi, j'ai chanté à 1h du matin. Ce que j'avais donc pas l'habitude de faire d'habitude, c'était pas mon heure. Et c'était un peu délirant parce que tout le public qui était là, c'était un public d'anciens enfants qui connaissaient tout par cœur. Et puis c'était de la folie, quoi. C'était avec des bières dans la main.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, on boit de la bière dans des gobelets en plastique en les écoutant maintenant.
Oui, exactement, avec des tatouages sur les bras. Ils ont des bras qui sont aussi grosses que mes cuisses. Voilà, enfin, voilà, c'est comme
et
ça.
Et alors, j'explique qui est donc votre groupe The Grand Gamin. Ils sont deux. Il y a votre fils,
oui.
Et puis il y a Obi-Wan Pichon, un ex des Explosions de Caca, qui est un groupe de rock suisse romand.
Alors c'est un groupe de rock qui a fait un peu ça, une intrusion en France dans les nouvelles, comment ça s'appelait, Nouvelle Star, c'est ça,
ouais. Ah, dans la Nouvelle Star,
Ouais, c'est ça.
Ça existe.
Ouais. Hein, c'est un programme, existe, un télécrochet.
Tant que c'est pas Koh-Lanta,
donc Pierrick et Raphaël sont venus faire ça, puis ils sont arrivés en demi-finale, c'était un petit peu la folie, parce qu'ils étaient très rigolos. Ouais. Et puis en fait, ils ont arrêté, parce qu'ils ont trouvé que c'était un petit peu le bout du bout pour eux. Mais par contre, on a décidé de monter un groupe qu'on a appelé Henri Dess et The Grand Gamin, donc Z-E, parce que j'ai pas envie de mettre ça en anglais. The Grand Gamin, et puis on a fait des arrangements, on s'est amusé entre nous, quoi.
Et donc comment ça se passe? Votre public plus jeune, il essaye d'aller piquer le disque rock dans la discothèque de ses parents, ou c'est vraiment séparé? C'est-à-dire qu'à vos concerts rock, il n'y a pas de gamins et...
Non, disons, aux concerts rock, dans les clubs de rock, les gamins ne sont pas acceptés parce qu'il y a des bières, enfin bon. Mais, par contre, si c'est des festivals, si on passe à 19h ou comme ça, les enfants viennent aussi.
Mais donc, si vous en êtes venu au point de faire un disque, c'est que ça vous a plu. Vous avez kiffé d'être
Mick
Jagger de la chanson pour enfants.
je me suis laissé faire parce que j'aime bien les nouvelles aventures. Je trouve ça très rigolo de prendre des chemins de traverse un peu qui me surprennent. Et puis voilà.
Moi j'ai aimé ça, alors je vous laisserai musicalement.
Avec vos tubes, comme Mélanie La Petite Charlotte, Bauer, La Machine, tout ça repris version rock, Mélanie Bauer.
Alors Henri, vous avez cessé d'être un chanteur pour adultes quand j'ai cessé d'être une enfant. On s'est croisés. On aurait pu se retrouver quand je suis devenue mère, mais ma fille vous a préféré les Pokémon.
Oh là là.
Bref, tout ça pour vous dire que je viens de découvrir votre répertoire et je dois avouer que c'était une erreur de ma part d'attendre si longtemps parce que vous avez vendu des camions de millions de disques, vous avez fait presque 100 fois l'Olympia, de quoi forcer l'admiration de beaucoup de chanteurs chauves à minette. Alors, je vous le disais, quand vous avez gagné...
Salut Pascal Obispo, je
pense. Oui. Quand vous avez gagné votre premier disque d'or, j'avais 15 ans, je suis de la génération de votre fils, les premiers enfants rois des années 70, post-68, élevés à grands coups d'utopie, sans internet mais avec des flippers. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'en faisant quelques recherches sur votre groupe de rock, The Grand Gamin, j'ai découvert avec stupeur le duo étonnant de votre progéniture, Pierrick, qui aurait pu s'appeler Cacaprout, mais qui a préféré un nom plus rock, Explosion de Caca, et dont voici un medley. J'imagine que quand votre père est une star de la chanson pour enfants, ce type de détournement iconoclaste est jouissif. Hein, et c'est bien ce qu'on ressent sur votre disque, Zinzin, car là où n'importe quel parent responsable et macroniste aurait mis le holà à cette explosion d'immaturité, vous avez fait le choix, vous, au risque qu'on efface votre nom des écoles, de régresser avec la génération X. Et ça, c'est une lueur d'espoir pour tous les adolescents du monde qui refusent le conflit des générations et la dictature du livret épargne. Ici, on est frais et coquin comme une glace au citron, quelque part entre le Gabi de Bachung et une Fernande de Brassens survitaminée.
Tu veux pas une boule vanille, Camille?
Non, je ne veux pas de vanille, je déteste la vanille, je préfère la glace au citron, aussi je l'ai qu'un glaçon, qui fait froid le long du cou et qui fait des frissons partout.
Lucas, tu veux pas une boule Lucas, tu veux pas une boule.
Grâce à vous, Henri, je profite d'ailleurs de ce moment pour une petite minute éducative. Je vous l'ai répété souvent, chers amis d'Inter et chers collègues, une bonne chanson, c'est un texte efficace et une bonne mélodie. Une fois cela en place, quels que soient les arrangements, rock, jazz, pop ou hip-hop, une bonne chanson, ça reste une bonne chanson. L'interprétation, ce n'est qu'une question de technique et d'imagination. Il n'y a pas de genre musical supérieur à un autre, juste une sensibilité et un petit effort d'ouverture d'esprit. Je vous le prouve en version originale et surtout en studio avec vous, Henri Dess. Vous alliez vous enchaîner.
Dis papa, dis-moi, comment c'est fait dans un piano? Dis papa, dis-moi, comment c'est fait dans un piano? C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. Ah bon ? Des papas, c'était à toi.
Alors, cela dit, sans trop vouloir intellectualiser votre zinzin, qui est clairement un disque d'amour, de plaisir et de joie, il y a dans le rock, quel que soit le propos, toujours cette jouissance de l'interdit, cette énergie brutale qui vient sûrement de l'enfance, cette liberté sauvage qui nous fait courir les bras en l'air sans nous soucier d'être beau, intelligent, ni même de nous faire mal. Ce sont les bêtises à l'école que vous racontez avec délectation, cette énergie qui malheureusement se transforme à l'adolescence avec l'arrivée de l'acné et du vilain duvet de la moustache sombre, défouloir sexuel. C'est de cette liberté, ce plaisir simple de vivre que l'on retrouve dans ce disque familial avec pour moi comme symbole de ce lâcher de cartable la chanson « Poule mes poules ».
C'est la poule blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle avec ses dentelles. C'est la poule blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle avec ses dentelles. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule noire, la poule du soir, qui se cache dans les creux pour fonder ses œufs. C'est la poule noire, la poule du soir, qui se cache dans les creux pour fonder ses œufs. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule grasse qui passe et repasse. Dire que tout va bien avec ses cousins. C'est la poule grasse qui passe et repasse pour me dire que tout va bien avec ses cousins. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule rousse qui est la plus douce. Elle picore dans ma main le dimanche matin. C'est la poule.
Henri Death Metal est avec nous.
Trash Metal.
Merci Mélanie Boer pour cette lecture.
Merci Mélanie Boer.
De l'album Zinzin qui est disponible. C'est Henri Death and the Grand Gamin. Il est vraiment extra cet album. On le recommande chaudement. On va aborder ce premier sujet avec vous. Les pailles, celles avec lesquelles on sirote la grenadine ou le picombière quand on a raté un pari. La paille qu'on jette parce qu'elle est trop petite pour être recyclée et les Américains en consomment 500 millions par jour. Les ONG réclament leur interdiction, alors rassurez-vous, elles existent en inox, en bambou et bien sûr toujours en biais de 5 euros aussi.
Tu le mets bien dans la narine gauche. Regarde ce que maman
fait. Regarde ce que maman fait. Il ne regarde pas.
Voilà. Tu la mets dans la narine droite ou la gauche. Voilà. Tu bouches l'autre narine
restante. La narine restante.
La narine restante. Bon, après, tu prends le début de la ligne, tu commences comme dans le sens de l'écriture.
Dans le sens de l'écriture, tu commences là, tu finis là.
Et tu renifles un bon coup d'une seule fois, de droite vers la gauche.
Allez, vas-y. Allez, c'est à toi. Vas-y.
C'est pratique la paille. Yolande Moreau, François Morel dans Les Deschiens, bien sûr. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France. Henri Dès, vous aviez déjà pris conscience que la paille, c'était un fléau pour l'environnement?
Pas du tout, alors.
Non, bah, non plus.
C'est même pas venu à l'idée, mais par contre.
Voilà, ça nous était pas venu à l'idée, mais apparemment, c'est le déchet qu'on retrouve le plus sur les plages françaises. C'est trop petit pour être recyclé. Ça part dans les égouts, donc directement dans l'océan. Les cétacés les avalent. La paille, c'est quand même quelque chose qui est aussi très lié à l'enfance et à la fête. Que ce soit frappé d'interdiction comme en Angleterre, est-ce que vous trouvez que c'est un peu rude, cette radicalité?
Ah, mais on en revient toujours à la même chose. On ça vit dans un monde où on ne peut faire grand-chose. Tout est interdit, la paille avec.
Ouais. On n'a plus le droit d'étouffer les cétacés,
On n'a plus le droit d'étouffer les cétacés.
Mais je crois que c'est l'interdiction de la paille en plastique. Parce que
maintenant, ils font
des pailles biodégradables, etc., plus rapidement.
En papier?
Ouais,
c'est ce qu'ils vont faire.
Ouais, il y a des chaînes de... C'est surtout la restauration rapide qui pose problème. Vous, votre conscience environnementale, elle est arrivée très tôt, Henri Dès?
Elle est arrivée assez tôt, mais elle est arrivée très très fort maintenant, quoi. Parce que j'ai commencé à m'installer des panneaux solaires sur mon toit. Donc j'ai 34 panneaux. J'ai 2 pompes à chaleur. J'ai 3 batteries dans ma cave et j'ai une voiture électrique.
Oh, dites donc.
Donc ma voiture électrique se recharge avec mes panneaux solaires, ça me coûte zéro. Et je trouve assez sympathique. C'est une voiture assez extraordinaire. Elle a la possibilité d'avoir un tout petit moteur qui permet de recharger les batteries quand on arrive au bout.
Elle ne fait pas prout-prout-prout alors.
On n'entend presque pas. Et j'ai brûlé 4 litres en 12 000 km.
Nous sommes en compagnie d'Henri Dès avec son album Zinzin, son album ultra rock. Henri Dès Metal, on l'a surnommé. Et on va aborder avec vous ce sujet important. Henri, car le camembert est en danger.
Ah là là, j'ai vu ça.
Celui de Normandie, le camembert AOP ou lait cru moulé à la louche. Un accord entre fabricants ouvre la voie à la pasteurisation, ce qui consiste à chauffer très fort le lait et donc à détruire la flore aromatique et certains ferments. Bref, à assassiner le camembert. Faisons appel à ses défenseurs.
L'agriculture est le fruit de longues générations de travail, d'efforts et d'attention. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Car cette France ne deviendra pas la vache à lait de l'Europe.
Le président. Le film, hein, pas le camembert, sauf si Henri Verneuil faisait du camembert, mais ça je ne suis pas au courant. C'est une tribune écrite par la présidente de l'association Fromage de Terroir, parue dans Libération, qui est tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est-à-dire que Henri Dès, on vit dans une société où même le camembert est menacé, on doit le défendre, il y a des signataires, le camembert est menacé par l'industrialisation, une forme de stérilisation comme ça, de devenir une pâte molle et sans goût.
Un plâtre.
Ouais, un plâtre, exactement. Le Suisse est sensible au fromage, j'imagine.
Je pense bien.
Vous souscrivez.
Absolument. Je signe. Mais j'achèterai toujours du fromage qui ne sera pas plâtré, parce qu'il y en aura encore. Non,
ah oui,
c'est pas interdit.
Non, mais ça
sera de la contrebande.
Mais c'est juste, ça sera plus cher.
Ça risque de devenir un produit de luxe.
Et voilà.
Voilà, alors quoi, le camembert industriel pasteurisé pour
les pauvres,
pour ceux qui ne sont rien et ceux qui ont réussi, acheteront du camembert. Ouais.
Mais c'est quoi leurs arguments? C'est l'hygiène, c'est quoi leur argument pour...
Eh bien, la tribune dans Libération n'explique pas quels sont les arguments des fabricants, mais j'imagine que c'est une industrialisation, c'est en plus grande quantité, ça permet des questions d'hygiène, etc. Dès qu'on pasteurise,
c'est comme stérilise. Tout.
Mais vous avez raison, on va approfondir le sujet et on y reviendra, Guillaume Meurice, vous posez les bonnes questions. Henri Dès.
En batterie, c'est pareil.
Ouais, voilà, le camembert tout fout le camp, Henri Dès, je sais pas quoi faire. Ce qu'on peut faire, c'est rire, c'est tout ce qui nous reste.
Oui.
Avec un sketch qu'on vous propose.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité pour jouer avec nous. Alors, vous avez peut-être entendu qu'il y a des problèmes dans les universités, donc les examens ont du mal à se dérouler. Et certains professeurs font des examens par Skype pour que les étudiants restent chez eux, les oraux notamment, et ils disent qu'on ne pourra pas tricher. Alors, Guillaume Meurice est le professeur, je fais l'élève et vous êtes mes parents, vous êtes cachés sous la table, on voit comment se passe...
Donc moi c'est le jaune.
Vous c'est le jaune.
D'accord, merci.
Comment se passe l'examen?
Pluchard, vous m'entendez, Pluchard?
Attends, ça se passe pas très bien, monsieur. Oui.
T'as essayé de redémarrer ton PC?
Papa, chut!
Ah, pas la peine de mettre des coups de pied, quoi.
À qui parlez-vous, Pluchard?
À personne, monsieur.
Et certainement pas à ses parents cachés sous le bureau.
Ma maman, merde!
Mais c'est bizarre, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas seul.
Alors si, je suis complètement seul, parce que ma copine, en plus, elle m'a quitté ce matin. Oui.
Oh, bah mon pauvre ami, faut pas se laisser abattre comme ça.
Oh, une mine de perdu d'y se retrouver.
Attends!
À tes souhaits.
Pardon?
Non, je voulais dire à mes souhaits, parce que j'ai...
Ah, d'accord. Alors, passons au sujet, si vous voulez bien.
Ah, quand même.
Chut, papa!
Ah, c'est pas la peine de me mettre des coups de genoux, quoi.
Donc, le sujet...
Ah, excusez-moi, monsieur, j'ai un double appel.
Ah, mais c'est pas vrai.
Bon, ben, prenez-le, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Voilà, je le prends. Allô?
Bon anniversaire.
Eh ben, merci, Tati, mais je... Non, je vous garde pas parce que je suis en examen, là.
Un examen?
Ah bah, t'as mis en examen.
Vous êtes bien les tatis. Je vous expliquerai. Bon, je retourne à l'examen. Monsieur Goudard, je suis prêt.
Goudard, voilà. Alors, le sujet de l'examen de philo, commentez cette phrase d'André Gide. Famille, je vous hais. Vous avez 4 heures.
Famille, je vous hais. Alors ça, c'est pas évident comme sujet parce que...
Fais gaffe à ce que tu vas dire, toi.
Tout à fait, réfléchissez bien.
Non, hein. Bah, je dirais que je suis en désaccord avec l'auteur.
Ah.
Mais je vous demande pas ce que vous en pensez. Je veux pas savoir si vous aimez votre père ou si vous couchez avec votre mère.
Non mais ça va pas ou quoi?
Qu'est-ce que j'ai entendu là?
Rien, c'est ma mère qui veut pas.
Du
c'est...
sujet?
Non.
Qu'on couche ensemble. Non,
tu perds rien.
Salaud!
Non mais attends, mais je rêve là. Attendez, on est chez les fous, c'est quoi là?
Non mais au moins dans la famille on s'aime, voilà. C'est pas comme chez les Gide, voilà.
Bon, allez, écoutez, je vous mets zéro.
Bon,
voilà.
Mais... Bon bah désolé, je vous laisse parce que j'ai examen de géo maintenant.
Mais je suis nul en géo, moi.
Bah, va falloir qu'on se rattrape parce que c'est sur les océans et les mers.
Ah, c'est sur les mers, bah c'est bon, c'est pour moi alors. Alex, c'est le moment d'écouter. Un chroniqueur qui est en connexion avec l'au-delà.
Vous avez déjà gagné, vous, des concours de chant?
Non.
Non, hein, c'est bien.
Ça vous étonne?
Ça me souffle.
Ah.
Eh bien, écoutez, un concours de chant animé par Christine Gonzalez.
Ah non, erreur. Christine Gonziagas.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans The Voice, soirée sous haute tension. Chers amis, ce soir, des stars de l'au-delà vont tenter de séduire le jury pour cette audition de la dernière chance. Ils ont du talent, ils ont une voix, soirée exceptionnelle, The Voice of the au-delà, ça commence maintenant. Et notre premier candidat est à mes côtés, bah, il est très stressé, hein.
Oui, j'ai les lèvres qui sèchent.
Louis de Funès, vous l'avez reconnu. C'est une première pour vous, hein. On comprend votre anxiété.
Oui, j'ai peur.
Ça va aller, vous inquiétez pas. Face à vous, le jury de The Voice, Zazie, Pascal Obispo, Mika, Florent Pagny. Dites quelque chose de gentil à Louis pour le relaxer un peu.
Ça va?
Bonsoir.
On va être gentil, on va rien faire. On va pas faire de bruit, pas de grimace.
Alors, moi, oui.
Alors on y va. On écoute Louis de Funès interpréter le Salve Regina. C'est à vous, c'est parti. Un siège s'est retourné. Bravo Louis de Funès, le public est enchanté. C'est vous, Zazie, hein, qui vous êtes retournée la première.
Oui, là, vous parlez d'enchantement. Pour de vrai, on y est. C'est dément.
Oui, Mika, vous partagez l'enthousiasme de Zazie.
C'était dark, c'était délicieux. Ça a osé. Ça fait du bien d'avoir cette magie dark, sincère, intense.
Oui, vous êtes sous le charme.
C'est sûr.
Ah, je vous sens très ému, hein, Louis.
Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai eu. J'étais ravi.
Oui, nous aussi, on est ravis. On l'applaudit. Oui. Bravo. Voilà. Prochaine candidate, c'est une femme. Elle s'appelle Edith. Voilà, elle est déjà installée sur le plateau, prête à chanter. C'est à vous, Edith.
Me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. J'ai beau chercher à la ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
C'est pas mal.
Personne s'est retourné.
Oh, c'est triste.
Bon, bah, pourquoi, cher jury, cette prestation ne vous a-t-elle pas convaincu?
Elle doit se lâcher un tout petit peu. C'est la seule chose que
ouais,
j'ai
peut-être
vu.
C'est ça, ouais. Et elle manque un peu de métier.
Une réaction peut-être de la candidate. Edith, qu'est-ce qui a manqué? Non, elle pleure. Zazie, dis-tu quelque chose pour la consoler peut-être?
Je t'ai vu là, je pense que tu étais morte de trouille. Ta voix s'est peut-être un peu même serrée à cause de ça. Tu as fait un peu une contre-performance pour moi. Donc ça va être très compliqué en fait.
Désolée Edith, vous quittez ce soir la compétition. Telle est la cruelle loi de The Voice. 10 000 euros. C'est la valeur du très beau chèque que l'un d'entre vous remportera. Écrivez un message au 6-15-15, 1 euro le SMS. Et comme vous serez plusieurs centaines de milliers à nous écrire, on s'en mettra plein les poches. Tentez votre chance. Bienvenue si vous nous rejoignez dans The Voice of the Au-delà. Dernière candidate, davantage connue pour sa plume que pour sa voix, Marguerite Yourcenar va tenter, oui, de séduire le jury. Marguerite, on vous attendait pas dans cet exercice. Pourquoi The Voice?
Il y a l'amour, il y a la passion,
C'est un assez grand mystère. Mais pourquoi, je ne sais pas.
Et vous allez nous proposer votre version de la lambada, une version inédite. Hein. Personne ne l'a jamais chantée comme vous auparavant.
On ne sait jamais, mais ça m'étonnerait.
Alors on vous écoute. Hein.
Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Les forces que tu tiens, ta liberté dispose. Mais de tous tes conseils, l'univers est absent.
Un siège retourné. 2, 3, 4. Oh, tout le monde est debout. Carton plein. Bravo. Une réaction, Pascal Obispo.
Elle était dedans, quoi. Vraiment, elle est dedans. Et ça, ça fait plaisir.
Ouais, ça fait plaisir, Mika.
En fait, l'excellence provoque l'excellence. Et on se retrouve dans des situations comme celle-là. Bam!
Ouais, ouais.
Mais comme une flèche qui est allée directement là où il fallait aller.
Tant de compliments, Marguerite, ça doit vous toucher. Hein.
Notez bien qu'au fond, je suis d'accord.
Mika, un dernier mot à Marguerite Yourcenar?
J'ai vraiment aimé ce qu'elle a amené. C'est un coup de vent qui est totalement différent de tout ce qu'on a dans cette saison de The Voice. Et ça fait du bien, franchement, de t'avoir ici. Alors j'espère bien que tu restes.
Vous restez?
Oui.
Elle reste! Elle reste! Magnifique! Merci d'avoir regardé The Voice of the Au-delà. La semaine prochaine, même jour, même heure, même chèque à remporter, même arnaque. Belle soirée à toutes et à tous.
Just to change your state of mind. Don't wanna complain about the abuse. It sometimes makes you a little bit furious. You don't want no cocktail. You don't want no champagne. You like the modern loving, and you love your soul. My angel on earth, you're more than you worth. My angel on earth, got a message this morning on my cell phone. I felt my heart a-bleeding. You don't like your alibis. You're in by those silly guys. You don't want no cocaine. You don't want no champagne. You don't want no cocktails. You love.
Stan McAnuff featuring Fixie dans My Angel.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Et on poursuit le chemin en compagnie d'Alix Poisson, Alex.
Tout à fait, elle était là pour un film avec Monsieur Poulpe, avec Manu Payet, et on a bien rigolé.
Alix Poisson en notre compagnie, car vous jouez dans Budapest, le film de Xavier Jean, avec Manu Payet, avec Jonathan Cohen, avec Monsieur Poulpe notamment, et Alice Belaïdi. Alors Alex Vizorek, je vous laisse cuisiner.
J'ai regardé, je me suis marré cuisiner le poisson, elle est bonne. Félicitations.
Mais c'est pas fait exprès,
alors là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, c'est ben, d'habitude c'est moi qui le fais, mais
je
des blagues sur mon nom, il y en a
j'imagine.
Un paquet.
J'imagine.
Oui, parce que poisson, c'est un peu comme l'animal.
Voilà, c'est le lien. Bon, Budapest. Non, bah écoutez, je le pitch.
Ah bah allez-y, pitcher mon ami.
Deux potes, Manu Payet, Jonathan Cohen, sortent de grandes écoles de commerce. Il y en a un qui s'emmerde un peu dans la boîte de son beau-père, dont vous êtes la fille du beau-père, vu que vous êtes la compagne de Jonathan Cohen. L'autre, pour être dans une grande multinationale, et fait une connerie et est un peu mis sur le côté. Et ils se disent, en fait, est-ce qu'on ferait pas un truc nous-mêmes?
Et ce sont des boursiers, pardon, je vous interromps, mais ils ont cette espèce de complexe du boursier. Voilà, ils sont stigmatisés depuis qu'ils sont rentrés à HEC ou je ne sais quelle école, et ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas du tout à décoller, quoi.
À créer quelque chose eux-mêmes.
Ouais, à créer quelque chose eux-mêmes.
Et donc, en allant à un enterrement de vie de garçon un peu raté, ils ont la bonne idée, créer leur propre boîte. Je vais plus loin ou c'est vous ?
Comme vous voulez, bah, ils créent leur propre boîte qui va se spécialiser dans les enterrements de vie de garçons, mais à Budapest, parce que la stripteaseuse un peu étrange de la première boîte de nuit leur a dit que c'était beaucoup plus facile, beaucoup moins cher, et qu'on avait accès à toutes sortes de choses étranges et peut-être pas forcément légales à Budapest.
Est-ce qu'on a affaire ici à une vraie comédie générationnelle du trentenaire ? Parce que parfois il y a des comédies pour les jeunes, parfois pour familiales, et ici c'est vraiment de notre génération, le entre 25 et 35.
Déjà, ça me fait plaisir que vous me mettiez dans cette génération.
Moi,
moi
aussi. Je vous mets tous.
Parce que, je sais pas, je crois que c'est un peu plus large que ça, non ? Parce que je pense que même des plus jeunes.
Mais cette espèce de mode de partir.
Il y a un côté very bad trip aussi, un peu, qui peut parler à beaucoup d'étudiants, je pense. Sans le côté enterrement de vie de garçon, je veux dire, oui, mais le côté fête et débauche absolue, il y a un spectre plus large.
Quand vous dites un côté very bad trip, c'est un film américain, je pense. Et justement, ici, il y a une réalisation qu'on pourrait dire presque à l'américaine. C'est assez frappant dans la réalisation de Xavier Jeans. Ouais. C'est vrai que c'est une comédie, du point de vue de l'image, de l'esthétique, de l'action, etc., qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Non,
bah, c'est bien, c'est bon signe. Si vous dites ça, c'est cool. Oui, bah, c'est-à-dire que Xavier, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a apporté sa patte, parce que lui, il vient pas de la comédie, à la base. C'est un monsieur qui a aussi fait des films d'horreur, très pointus, en fait, et qui a travaillé aux États-Unis, entre autres. Et du coup, il a un traitement de l'image que moi, j'aime bien, parce que du coup, ça apporte une étrangeté. Toutes les scènes de boîte de nuit, toutes les scènes, elles sont pas que festives et drôles. Enfin, il y a un côté onirique, étrange, et je sais qu'il avait plein de références en tête, ouais, qui n'étaient pas forcément de la comédie.
Et plein de références de pop culture aussi, il y a des hommages aux différents films qui se glissent à l'intérieur, à nous les reconnaître.
Il y a plein de chouettes second rôles. Comment est-ce qu'on choisit justement une bonne comédie, un bon second rôle dans une bonne comédie?
Je crois que ça vraiment dépend vraiment des fois, mais là le point de départ surtout, c'est que en fait moi j'avais rencontré Manu Payet parce qu'on avait tourné ensemble dans le film de Cyril Gelblat qui s'appelait Tout pour être heureux, qui est un super beau film, je trouve.
Manu Payet qui a co-scénarisé le film.
Oui, tout à fait. Et en fait c'était assez étonnant, ça n'arrive pas souvent. On s'était rencontrés sur ce film, j'avais, je crois, pardon, 2 jours de tournage. C'est très court. Et en fait, on s'était énormément apprécié. C'est-à-dire que dans le jeu, je sais pas, il y avait eu un truc, il y avait eu une espèce d'alchimie. On était hyper contents de jouer ensemble. Et on s'était quitté, ce qui est quand même assez rare. Et puis surtout, on se dit oui, enfin, on dit ça, mais enfin, ça n'arrivera peut-être pas. On s'était quitté en se disant, ah, j'aimerais bien qu'on retravaille ensemble. Et en fait, c'est lui qui m'a appelé. Et j'ai trouvé ça extrêmement galant et attentionné. Il m'a appelé en me disant, voilà, je suis en train de co-écrire ce film et j'aimerais vraiment que tu sois la femme d'un des deux protagonistes.
Donc ça n'avait rien à voir avec le scénario.
Non, si, parce qu'après quand j'ai lu... Non, mais parce que ça part parfois aussi de ça. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai rencontré Manu plus, et puis après, j'ai rencontré... Enfin, Jonathan, je le connaissais parce qu'on a fait le conservatoire ensemble. Alors, on se connaît depuis un paquet d'années. Et Alice, et je me suis dit, c'est quand même une bande de doudingues. Donc, le scénario était déjà prometteur, mais après, je me suis dit... Enfin, comment dire, la promesse de départ était super, mais après, vous voyez ce que ça peut donner avec les espèces de dingos qu'ils sont. Parce qu'ils sont quand même dingos.
Et c'est vrai que c'est un trio qui fonctionne très très bien parce qu'ils se connaissent très bien. Et donc, on sent bien la mayonnaise prendre à l'écran, sous la caméra devant la caméra de Xavier Jans. Alix Poisson, vous êtes extra dans ce film. On va aborder ce premier sujet qui va changer le monde. Attention. Le Conseil supérieur des programmes préconise la dictée, bien sûr, ça on le savait, mais aussi l'apprentissage de la Marseillaise, étalé sur plusieurs années, attention, avec pour ultime étape, je cite, « être capable de la chanter en public ». Allez, chacun à son tour au tableau.
Mais pas en entier.
Boniface.
Marie-Chan, nous voilà.
Et si t'as appris ça, toi?
C'est mon grand-père.
T'es un peu démodé. Bon, à gauche. Clément.
Aux armes, citoyens, tête de chien, formez vos bataillons, bande de couillons.
À la droite.
Gérard Jugnot, bien sûr, dans Les Choristes, le film de Christophe Baratti. C'est un article paru dans Le Figaro aujourd'hui. Oui, vous disiez, Alix Poisson, j'espère pas en entier.
Mais j'espère pas en entier, il y a vachement de couplets.
Ah oui, ça... vous n'êtes jamais arrivé au bout.
C'est très long. Oh ben non, on connaît tous le premier, non, c'est tout. Je crois. Hein?
Il y en a qui sont pas très sympas, surtout.
Bah surtout, voilà, c'est très violent tout ça.
Exactement.
C'est vrai. Vous vous rappelez comment vous l'avez apprise?
Oh! Absolument
pas. Chose dont on se rappelle pas.
Alors
en fait.
Là, vraiment pas. Ouais. Alors là, certainement pas à l'école, mais pardon, mais on l'apprenait pas à l'école. Non, en regardant des matchs de foot, non.
Par exemple, oui. Mais est-ce que ça vous paraît incongru ou normal ou important d'apprendre la Marseillaise à l'école?
Je crois surtout que c'est, il y a des choses, enfin, à mon sens, hein, plus urgentes à faire. C'est-à-dire que si l'idée c'est d'inculquer une sorte de fierté, de je sais pas, d'appartenir à son pays et tout ça, je pense qu'on peut le faire d'autres façons. Mmh. Et parce qu'il y a des belles valeurs quand même républicaines, mais on peut les expliquer mieux que juste en apprenant une chanson. Et après, oui, non, à mon sens, il y a des trucs vachement plus urgents à faire. Ouais. Après, bon. Voilà, hein, je pense que chaque institut fera comme il veut dans sa classe, en fait.
Parce qu'après, c'est quoi? C'est hisser le drapeau, ces choses-là qui vont arriver. Hein,
bouffer du fromage.
C'est vrai. Attention, c'est très détaillé. C'est le Conseil supérieur des programmes qui a dévoilé ses préconisations pour la rentrée 2018. Je vous lis le détail. Hein. En CP, les élèves apprennent à reconnaître la Marseillaise. En CE1, ils apprennent à chanter. En CE1, ils apprennent à chanter le premier couplet.
Il y a Michael Jackson. Il y a au milieu. Il y a la Marseillaise.
En CE2, ils savent chanter par cœur ce premier couplet. Et en CM1, ils savent chanter par cœur un ou plusieurs couplets de la Marseillaise.
Ah ouais, quand même,
Alors, c'est un sujet qui est revenu régulièrement sur le tapis. Hein, mais il avait débuté en 85 avec cette idée du ministre de l'Éducation nationale d'alors qui était Jean-Pierre Chevènement.
Ah.
Et ça, une idée de Jean-Pierre Chevènement, c'est toujours bien de remettre.
Ça se périme pas, quoi.
Ça se garde.
Ça se garde au
frais. Mais en expliquant un peu, il compte l'expliquer. Parce que si c'est juste pour la chanter bêtement et répéter sans comprendre ce qu'on dit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, voilà.
C'est juste un symptôme d'un retour à des valeurs nationalistes extrêmement diverses et variées qui sont absolument partout. Et que Chevènement en soit à l'origine ne m'étonne absolument pas.
Certains diraient patriotique.
Non, c'est pire que patriotique.
Vous avez raison, Alix Poisson, sans doute que certains enseignants auront à cœur de faire l'exégèse critique du texte.
Non, mais c'est-à-dire, parce qu'ils vont être obligés de le faire ou ça va être laissé à l'appréciation de chaque institut, de chaque directeur.
Il y a certains professeurs qui seraient de gauche et qui donc ne se jetteraient pas dans l'apprentissage de la Marseillaise.
Ils doivent chanter en public après. Enfin, imaginez une petite Charline, ça peut faire quand même des dégâts. C'est pas tout en mi bémol. Non, mais le mi bémol, d'accord, mais je veux dire... Non, mais...
Allez, Alix Poisson, notre compagnie, elle est dans le film Budapest de Xavier Jans, film de déglingo. Un autre déglingo autour de cette table, Hippolyte Girardot.
En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais en fait, voilà, j'ai une idée comme ça, et puis je me suis dit, tiens, ben, justement, à la manière de, là, on dit fait du Zola, etc., bon, c'est effectivement, c'est compliqué, mais je me suis dit, je vais faire une chronique à la manière de quelqu'un que peut-être vous connaissez.
Ah oui. Ah oui.
Sur les épaules d'Hippolyte. Sur les épaules du glandeur. Se tenir dans la poche du glandeur. Et voir tout près tout ce qui est dans la poche. Hier, à 22h16, heure de Paris, s'est finalement abîmée la station spatiale Tiangong 1, palais céleste en mandarin au-dessus du Pacifique. Devenu incontrôlable depuis mars 2016, il était absolument impossible de prévoir à quel endroit du globe elle allait tomber. Dans une étude publiée en avril 2017, dans le cadre du colloque de l'improbable toujours plus probable, Time Stackles and Stackles, le professeur Vladimir Matin expliquait que la prévisibilité de la disparition annoncée d'une construction humaine aussi sophistiquée soit-elle, est hautement imprévisible. Étude reprise en partie par le groupe de recherche de la rue Farfouille, le GRFF, dans sa célèbre communication sur les grands cimetières terriens, publiée en janvier 2018 à l'Université des Impossibles, peu ou pas possible. Malgré cela, il apparaît que la probabilité que Tiangong 1, palais céleste, en mandarin, se désintègre dans cette zone du Pacifique Sud était de 9 sur 10. Pourquoi ? Quel est ce mystère que la poche du glandeur va encore une fois éclairer de sa lumière ?
Oh, c'est beau !
Depuis 1971, une zone maritime aussi vaste que l'ex-URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, accueille les engins spatiaux de retour de mission. Cet endroit perdu au milieu du Pacifique est appelé pôle d'inaccessibilité et se situe à 2688 km de la première terre émergée, l'île d'Ussi, un atoll inhabité. Ce cimetière a déjà accueilli 250 à 300 engins spatiaux en fin de vie. Le plus célèbre restant à ce jour, la station spatiale soviétique Mir de 120 tonnes qui gît, comme les autres, à 4504 mètres de profondeur. Dernière habitation de ces fantastiques machines témoignant du génie humain, ce lieu se nomme la zone Nemo, en hommage, évidemment, au fameux capitaine inventé par Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers. Cet endroit inhospitalier, à l'écart des courants sous-marins et par conséquent peu ou pas habité de créatures marines, est pourtant le théâtre d'un mystère encore non résolu. En mars 1997, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, en anglais le NOAA, a détecté un son d'une origine inconnue. On l'a nommé le bloop.
Il y a du budget sonore aujourd'hui.
Toutes sortes d'hypothèses ont été émises, mais l'étude du professeur Edmund Kaiser Yu, Critical Critics of the Bloop, Boston Faculty of Bloops, 2002, fait désormais autorité. Il dit s'il est physiquement impossible d'imaginer une créature assez imposante pour émettre ce bloop, il faudrait qu'elle fasse 10 fois la taille de la plus grosse baleine jamais observée. L'origine donc de ce son est inexplicable. Les hypothèses en rapport avec la créature de Cthulhu, imaginée par l'auteur de science-fiction H.P. Lovecraft, dont le tombeau se situerait dans la zone des mots, avant même que cette zone fût désignée comme la déchetterie spatiale, sont aussi fantaisistes qu'infondées. Le mystère de ce son ultra-puissant, entendu à 5000 km de son émission, reste entier. Aujourd'hui, contredisant humblement le professeur Kaiser Yu, sur les épaules du glandeur, peut enfin révéler la vérité.
Hippolyte Girardot, merci beaucoup pour cette chronique. En compagnie d'Alix Poisson, on va aborder ce dernier thème qui a trait au film Budapest.
Carrément.
L'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille est devenu une industrie. Ce folklore était pourtant peu pratiqué, paraît-il, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il faut avoir survécu à son week-end de débauche avant de tenter de survivre au mariage. Est-ce que ça incite à s'engager, tout ça ?
Moi, je veux rester célibataire, monsieur.
Mais le célibat ne croit surtout pas que ça soit dans la poche. Tiens, moi, par exemple, toute ma vie, je me suis défendu pied à pied. Toute ma vie, j'ai été poursuivi par une malédiction. À chaque fois qu'une femme me voit, il faut qu'elle s'emballe. Tiens, voilà Albert, ça y est, elle a l'œil qui s'humecte.
Moi, c'est bien simple. Depuis ma première communion, j'ai l'impression que ma braguette est ouverte. Je passe mon temps à me vérifier.
L'enfer, on sait ce que c'est. On peut en parler. On en revient.
Calmos, de Bertrand Blier, avec Marielle et Rochefort, notamment. Alix Poisson, vous avez déjà participez-vous à des enterrements de vie de jeune fille ?
Non, pas du tout. Jamais.
Ouais.
Non, jamais.
Il paraît que c'est assez récent parce que grâce au film Budapest, il y a quelques papiers qui sont publiés dans la presse ou des reportages en télévision avec des sociologues qui s'expriment et qui racontent que ça existait de façon un peu sporadique il y a quoi 15 ans, 10 ans et que là maintenant il y a 65% des jeunes qui font leur premier mariage hein, quand c'est le deuxième, on n'enterre pas une deuxième fois. Mais donc que c'est assez récent. Donc,
j'ai appris ça en faisant le film, je pensais pas du tout parce qu'on a rencontré donc les deux, les vrais.
Ah oui, ça part d'une vraie histoire.
Bah oui, ça part d'une vraie histoire quand même. Et c'est hallucinant, parce que je savais pas du tout que c'était un business à ce point-là, quoi. Il y a vraiment des boîtes qui offrent tout ce qu'on peut imaginer de plus dingo et dans plein, mais ils ont une boîte dans toutes les capitales d'Europe. Enfin, c'est, oui. Et je savais pas que, effectivement, enfin, ouais, à 60-70%, les gens, quand ils se marient maintenant, ils enterrent leur vie de garçon ou de jeune fille. Je ne savais pas.
C'est de la responsabilité du témoin, normalement.
Oui, c'est ça. Qui est vachement content.
Alors là, il se foule plus, alors, le témoin.
C'est ça l'idée.
C'est que le témoin, il se foule plus, parce que j'imagine que la démarche, c'est aussi de confier à son témoin l'organisation.
Ah,
donc, quelque chose d'un peu artisanal, d'imaginer quelque chose. Là, on paye 400 boules à...
Non, mais on peut imaginer un programme complet. Pour l'avoir fait, déjà, en tant que témoin.
Ouais.
Et puis, je l'ai fait en tant que participant. C'était à Amsterdam.
En mode Budapest, un peu.
Et je me suis endormi.
Amsterdam, c'est l'autre destination.
Tellement sous que je me suis endormi avant l'arrivée de la stripteaseuse. Donc, je sais pas vous raconter ce qui s'est passé.
Je crois que c'est étudié pour.
Mais non, mais le marié.
Vous savez, les stripteaseuses sont malines.
Le marié était réveillé, lui. Mais voilà.
Et souvent, ça se conforme tout le monde dans les stéréotypes sexistes. Sinon, c'est pas rigolo.
Non, c'est pas le genre.
C'est un peu l'objet du film aussi, quand même.
Bah oui, mais après, ce qui est. Enfin, moi, ce que je.
Il y a des chippendales aussi, quand même, chez les filles.
Oui, ça je sais pas, je pourrais pas vous dire si les filles sont hyper...
Les filles, il paraît que c'est très spa.
Oui, il y a du spa.
Il y a du spa. Il y en a aussi comme
de l'enregistrement de disques, j'ai déjà vu ça aussi.
Ah, d'accord.
Ils vont enregistrer une chanson toutes ensemble.
Alix Poisson, on rêve d'un rôle pour vous.
En fin d'émission, on propose un rôle à l'invité.
Oh mince.
Brigitte Macron, évidemment.
C'est un classique.
Évidemment, on est au Vatican. Brigitte Macron n'avait pas bien potassé la visite. Emmanuel Macron, c'est Guillaume Meurice. Et le pape François, c'est Hippolyte Girardot.
Attendez, je suis qui moi?
Brigitte.
Ah oui, j'ai pris.
Entrez ici, mon fils.
Gérard, mais qu'est-ce que tu fous là?
Hein?
Bah, fais pas l'idiot, je t'ai reconnu. T'es Gérard Collomb.
Mon colon va très bien, merci madame.
Mais Brigitte, un peu de retenue là.
Un vieux avec une élocution difficile, c'est forcément Gégé.
Non mais Brigitte, ce monsieur c'est le pape.
Ouais, c'est ça. Et moi je suis la femme du président de la République peut-être.
Oui, je te confirme, oui. Oui, monsieur Macron, je vous nomme chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran.
Ah bah ça existe pas, tu vois, je suis certaine qu'il invente.
Non mais Brigitte, on est là pour draguer l'électorat catho là.
Hein? Il est formidable, le pape. Hein.
François, pas
François. François rend l'argent.
Non, mais je comprends rien. Pardonnez-la, c'est de l'humour français, monsieur.
Ah, ça existe. Je croyais que l'humour français, c'était comme la Sainte Vierge.
Ah, oui, c'est marrant. Souriez, François, le photographe de Paris Match est là.
Oh oui, une photo pour faire la une.
Non, sois plus discrète, il faut pas trop qu'on voit que c'est de la com. Là.
Ah oui, t'as raison. Oh, les pauvres sont tellement médisants.
C'est la vocation des gouvernants de protéger les pauvres.
Ben voilà, c'est reparti, le vieux il débloque.
Et tout est chiamo poveri.
Pardon? Ricky est poveri? Ça l'appelle Ketillamo.
Non, il a dit « et nous sommes tous des pauvres ».
Oh, il se fout de notre gueule, non? Il n'a pas entendu parler de notre nouveau service de vaisselle.
Pardonnez.
Bah nous, pas des ados, hein. Toi, pas devoir humilier nous, hein.
Non mais Brigitte, sois généreuse un peu, là.
On pourrait lui faire cadeau de la vieille vaisselle de l'Elysée, peut-être.
Un cadeau, ça. Alors voilà, j'ai apporté ceci, le livre « Journal d'un curé de campagne » de Bernanos.
Mais non, ils s'en foutent, ça. Alors moi, je vous ai apporté les deux premières saisons de Parents mode d'emploi.
Ah, merci, ma fille, merci.
Ah non, mais je suis ni sa mère ni sa fille. Hein.
Mais pourquoi tu lui as offert ça, Parents mode d'emploi?
Parce que ça va le faire rire, ça va lui rappeler les problèmes qu'il a eu avec ses enfants à lui.
Mais non, mais il est pape.
Bah et alors?
Oh là.
Alors là, c'est son jour, hein, c'est le vendredi, donc...
Oui, il prend la place de personne.
Ouais.
Ah, mais quand même, on va récupérer une petite chanson qui nous avait bien fait rire. Nous sommes en avril 2018 et on s'inquiète de la situation dans les EHPAD. Frédéric Fromet va vous la narrer.
Dans les EHPAD, ça va pas, papa. Je vais devoir t'abandonner, mon pépé. Je vais devoir t'abandonner, mémé. Si tu réalisais seulement tout ce que tu nous coûtes, c'est beaucoup trop d'argent pour des vieilles croûtes. C'est pas facile car tu n'as plus tes jambes. Oh oh, faut que je m'ouvre. Mais il y a personne pour pousser le fauteuil. C'est pas facile car tu n'as plus tes dents. Oh oh, faut que je mange. Mais il y a personne pour tenir ta paille. Maya dans les EHPAD. Ça va pas, papa. C'est pas facile à veiller à 17h. Oh, oh, faut que ça boum. Et même pas une cassette de Franck Michael. C'est pas facile car tu n'as plus la forme. Oh, oh, mais faut que je vive. Ça arrangerait du monde que tu rejoignes ton cercueil. Dans les EHPAD, ça va pas, papa. Je vais devoir t'abandonner, mon bébé. Je vais devoir t'abandonner, mémé. Si tu pouvais te retenir, arrêter de gémir, ou alors tout simplement mourir. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de reprendre les rides à Mitsuko. Je vais devoir t'abandonner, mon pépé. Je vais devoir t'abandonner, mémé. Y'en a marre des grabataires, et tant pis si on perd tout notre auditoire de France Inter. Non, je déconne. C'est une honte comme on traite nos vieillards. Oh oh, faut qu'on se bouge. Comment pouvons-nous nous regarder dans le mouroir?
Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission et la fin de cette semaine. On va se retrouver en direct lundi, bien sûr, tous ensemble, avec toujours notre formidable équipe qui nous aide à préparer cette émission. Ce sont les moteurs à réaction, on peut dire. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, alias Ramzi avec un I, et notre stagiaire Paul Plumet à la réalisation, la merveilleuse Anne-Sophie Ladonne, et à la technique, Guillaume Roux et Florent Beauvallet. À lundi.
À lundi.